Bonjour et bienvenue à la remise du prix des nouvelles des scolaires organisée par les Utopiales en partenariat avec l'INSERM. Les trois catégories, nous avons reçu beaucoup de textes pour les trois catégories primaire, collège et lycée. Un peu plus d'une centaine pour les primaires, 130 à 140 pour les collèges et 75 pour les lycées. Je vais laisser la parole à notre partenaire de l'INSERM pour dire quelques mots.
Merci, bonjour. Donc, l'INSERM accompagne pour la deuxième année ce concours de nouvelles. Donc, l'INSERM, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'Institut national de recherche en santé pour de l'homme. Les chercheurs travaillent sur toutes les problématiques, maladies et toutes les thématiques, que ce soit les neurosciences, la génétique ou autre. Donc pourquoi on accompagne ce concours de nouvelles? Vous avez pu découvrir, j'imagine, l'exposition Science-fiction Voyage au cœur du vivant, qui associe des images de l'œuvre de Jules Verne et des images de science. Et tout cela est raconté sous la plume de Bernard Werber, qui s'est plié au jeu du conte imaginaire, de l'imagination. Donc c'est pour cela que l'INSERM aujourd'hui est heureux d'être là et d'accompagner les Utopiales et en particulier de proposer donc aux trois lauréats d'abord de publier sur le site internet de l'INSERM, de publier les nouvelles qui seront donc primées. Donc ces trois nouvelles seront sur le site internet de l'INSERM. Et puis, chaque classe du lauréat gagnant sera invitée à venir découvrir les laboratoires de l'INSERM. Donc pendant une journée, on organisera cela avec vos enseignants. C'est ce que je souhaitais pouvoir vous indiquer. Donc maintenant, place aux résultats.
Alors, on va commencer par la catégorie des primaires. Et je vais demander à Mireille Rivalan de...
Ça marche, là le... Donc, pour la catégorie des primaires, nous avons reçu à peu près 120 nouvelles. Elles étaient globalement d'un extrêmement bon niveau. Nous avons primé 5 personnes. Et je vais appeler les primés. Nous réserverons le temps de l'élu et du cadeau INSERM en second temps. J'appelle Paul Beaumont. Est-ce qu'il est là, Paul ?
Faut venir sur scène.
Peut-être qu'il faut, Paul, il faut que tu passes par là. Comme ça, tu es le premier, les autres sauront comment faire. Alors, Paul, est-ce que nous n'avons pas lu sur ta copie, sur ta nouvelle, dans quelle classe tu étais ? C'est le portatif.
Tiens, ouais. Alors, tu es en quelle classe ?
En
CM1. En CM1.
Dans quelle
école ? Et dans quelle école, ouais.
À Notre-Dame de Toute-Joie.
Voilà, bah, bravo à Paul, qui est le plus jeune des lauréats, puisque les trois autres que je vais appeler sont en CM2.
Tiens, viens, viens.
Maintenant, j'appelle Erwan Ruquet. Qui est élève en CM2, donc à l'école Alphonse Brault.
Allez, viens, viens vite.
J'appelle aussi Louison Gomez, de la même classe. Là, on ne sait pas si on doit féliciter les élèves, l'enseignant, sans doute tout le monde, parce que visiblement, la classe de CM2 de l'école Alphonse Brault produit de très belles choses littéraires. Et nous appelons Chloé, dont nous n'avons pas le nom de famille, de l'école de la Forêt. Est-elle là ?
Tiens, mets-toi devant. On a enlevé ce siège qui casse les pieds, finalement.
Est-ce que... Elle a écrit une nouvelle qui s'appelle La Terre Bleue, si ça peut aider.
Bon. Alors, Chloé ?
Chloé...
pas de Chloé.
On la contactera et puis on lui offrira ses livres. Et parmi ces merveilleuses nouvelles, il y en a une qui effectivement nous a emportée, il faut le dire. C'est celle de Zachary Pelletan.
Bravo,
encore,
Zachary.
La classe de CM2 de l'école Alphonse Bro.
Alors, Zachary, donc voici un week-end à Univers-Sciences qui t'est offert avec un parent. Donc on est heureux de pouvoir t'offrir cela. Tu vas également avoir des livres.
Merci.
Est-ce que tu veux dire un petit mot ?
Non.
Tu es de quelle classe ?
CM2.
Je vais dire un mot.
Alphonse Bro.
Tu as travaillé avec tout seul, chez toi, avec ton enseignant. Comment ça s'est passé ?
Avec ma maîtresse.
Avec ta maîtresse. Et ça t'a pris beaucoup de temps ?
Un peu.
Bravo. Attends. Également, de quoi écrire et de quoi lire. Donc, bravo. On va lire. Alors, les quatre, vous pouvez redescendre. On va lire ta nouvelle, hein, si tu veux bien. D'accord ?
Oui, je vais me permettre de dire un mot sur cette nouvelle et de vous présenter la personne, l'écrivain qui va lire cette nouvelle.
Voilà. Là, vous
donc, Zachary a eu un titre ambitieux, hein, ça s'appelle Vengeance. C'est très ambitieux, c'est une presque histoire, car il y a un héros, un jeune homme policier de l'espace qui est assez exceptionnel. Il a 16 ans et il va seconder les adultes qui ne sont pas assez habiles pour tout faire. Les dialogues sont excellents, vous allez le vérifier. Pour moi, c'est une vraie graine de romancier et c'est l'éditrice qui parle. Et nous avons confié la lecture à Lionel Davoust, écrivain, qui va faire ça, parce qu'il y a du boulot, il y a des apartés, il y a des schémas, enfin, je ne sais pas comment Lionel va faire ça, mais bravo, d'avance.
Vengeance. Le plan. Il est 7h. Nous sommes le vendredi 17 août 2018. Encore être obligé de se lever. J'en ai marre. Je suis où, là ? Et mince, je me suis encore trompé de bâtiment. Je cours vers le bâtiment G46. Pile à temps pour la sonnerie. Je sors, prends mon vélo réacteur et me dirige vers le centre G45 de Polispace. Agent Naptel, encore en retard, me dit mon chef. Bon, voilà, je peux me présenter. Zach Naptel, 16 ans, agent français à la Polispace de la ville météorite dont le magnifique nom est Naptanzim. Ville de l'espace, jumelée avec Nantes. Quoi ? Vous ne comprenez pas ? Je vais vous expliquer plus clairement. Comme on ne peut aller sur les planètes du système solaire, pourquoi ne pas aller sur les météorites ? Donc, en 2005, un groupe d'astronautes est parti vers la Lune avec commission de cueillir des météorites et de les accrocher à la Lune. Et maintenant, la question que vous attendez tous, pourquoi les météorites ? Parce que, tout simplement, après de longues années d'études, nous nous sommes rendus compte que la poudre de météorites, mélangée à une autre roche, puis enfin brûlée, ce mélange fait une substance liquide remplaçant l'eau. Après, pour pouvoir respirer, ils ont installé une serre sur chaque météorite et les ont reliées entre elles par des passerelles. En 2015, on a commencé à faire des voyages et maintenant, la ville est en surpopulation. Moi, je suis arrivé hier en navette de travail. En fait, comme il y a beaucoup de scientifiques, il y a aussi beaucoup de vols. Pour que les spacemen, les policiers, passent inaperçus, le maire de Naptanzim a pensé qu'il faudrait engager des enfants pour les missions peu dangereuses. Et moi, j'ai été choisi. Bon, je suis pas non plus super content. Mais quand même, obtenir un voyage gratuit dans l'espace, hein ? C'est cool ! Bon, fini la présentation, mon chef m'appelle. Il y a eu un hold-up dans le quartier nord, vas-y. J'enfourche pas Space Moto et pars vers le quartier nord. Arrivé à la passerelle, je vois un grand feu. Bon, plus qu'une solution. Je fonce droit vers un sas de sortie et mets mon masque. Je n'ai plus qu'à rentrer par un autre sas. Oh non, il n'y a pas de sas dans le quartier scientifique. J'appelle les pompiers et arrive dans le quartier ouvrier. Je prends la passerelle centrale. Enfin, la rue scientifique. Et là, une voiture déboule sur mon nez. J'appelle les unités volantes. Ici Space Moto, TT-234M, intervention, appel à toutes les unités volantes. Matricule TA-000M, poursuite, à TA-100M, poursuite. Fin d'appel. Je prends les passages secrets et débouche tout à côté de la voiture aux vitres teintées. Bah oui, elle a les vitres teintées, une voiture de luxe, quoi. Je passe mon rayon X et regarde sur mon homo l'écran les personnes dans la voiture. Et là, qui vois-je ? Il y a Maléfique, de son vrai nom Yamakroti, la sous-chef du gang de CyberDead, le gang le plus dangereux de tout Naptansim. C'est un groupe terroriste contre le progrès scientifique. Ils disent que cela peut enclencher des guerres ou des catastrophes nucléaires. Moi, j'en ai aucune idée. En fait, moi, je pense plutôt qu'ils veulent faire de Naptansim une ville repère avec les armes qu'ils volent, pour ensuite transformer l'espace en repère de voleurs. Personne n'a jamais su qui était le chef de CyberDead. Bon, ma mission est terminée, je rentre à la police-passe. Là, je retrouve Edgar Neltis, un copain à moi. Il me dit, le chef veut te voir. Oh là là, il peut pas nous lâcher la poire deux minutes, celui-là. Bon, j'y vais. Mais après, on se retrouve pour casser la croûte, ok? J'ai que 30 minutes. Ouais, j'espère qu'il va te donner de bonnes nouvelles. On se retrouve au parc maritime? Ok. Je me dirige vers le bureau du chef. Quand il nous demande, c'est soit pour nous donner des missions ou des ordres de poursuite, ou soit c'est pour dire qu'on est des nuls. Voilà la porte. Il y a écrit dessus « Bureau du capitaine ». Moi, je trouve qu'il devrait marquer dessus en grandes lettres « Le chef ». Toc, toc, toc. Entrez. Bonjour. Vous arrivez au deuxième grade. Échangez vos badges. Vous êtes maintenant au grade d'interventionniste. C'est le grade où t'arrêtes les voleurs, etc. Je peux vous poser une question ? C'est déjà fait, je crois. Qu'est-ce qu'il y a maléfique à voler ? Du DDRFD 235216 FHJFH, des humanograines. Ce sont des graines pour humanoïdes, genre de robot doté d'un cerveau. Quand est mon prochain congé ? Dans 2 semaines. Merci. Je pars de la pièce et vais vers la salle du dictophrase. C'est une pièce où il y a une caméra et un micro. J'attends mon tour. Bon, voilà, ce matin, il y a Yama qui a volé des humanogrènes. Vous savez, les petites pilules pour humanoïdes ? Je suis arrivé au grade de poursuiveur. Moi, je crois qu'il faut que ça change. Cette nuit, je vais réfléchir à un plan. Liaison terminée. Je regarde ma MAM, montre à multifonction. Zut, midi 10, il faut que j'y aille. Zach, tu sais, je pense que je vais tourner un film sur le vol. Oh là là, tu sais, moi je pense que tu devrais que c'est toi qui devrais me lâcher là pour avec tes histoires de films. Moutarde, eau, ketchup, dit le robot dans la cabine. Moutarde, et toi ? Moutarde aussi, me dit Edgar. C'est pratique ces petites cabines magasins. Ouais, je crois qu'ils vont en installer dans tout le centre-ville. Puis sur rail, ça va plus vite. Bon, faut que j'y aille, je vais être en retard. 13h. Rien. 14h. Rien. 15h. Rien. 16h. Rien. 17h. 18h. 19h, quelque chose. Nous avons localisé le repère de CyberDead. C'est un hangar vol, un hangar dans un immeuble inhabité. Nous allons faire une réunion spéciale dans 2h, 2h30. Pour l'instant, je vais voir ce qu'il y a à manger à l'auto-self. 21h. Bon, on éteint les caméras de surveillance. C'est déjà fait. Alors j'ai un plan. Chuchotais-je à mes camarades. Bon, alors allumez les caméras. Nous continuons la réunion pendant 2 heures et nous présentons chacun à notre tour nos plans. Allez, à demain. Ed, j'ai un truc à te dire. Demain. Quoi ? Ah, bon, d'accord. Je retourne me coucher. Demain, nous passerons à l'acte. Allez-y, la voie est libre. Nous étions partis à 18, tous ceux du dortoir, plus Edgar, et nous comptions arrêter Yama et le gang. Passez par la porte de derrière. Et vous, courez aux aqualicos. Nous montons les marches, moi et 5 autres gars. Je défonce la porte. Edgar était parti aux aqualicos avec 8 personnes et le reste du groupe était en moto blue. Vous êtes en état d'arrestation. Eh ben, on les prend au berceau maintenant. Vous deux, allumez le moteur. Bon, eh ben, au revoir, dit Yama en ricanant. Appelez les aqualicos. Le toit s'ouvre et les aqualicos nous tractent. Nous poursuivons la coiffure de Yama. D'accord, poussez-vous là. Sortez. Je me rends. Pas. Je ne peux plus attendre. Je prends mon élan, je pose mes pieds par terre, puis les relève. Je sors mon solo sabre. Blam ! La tête de Liama roule à mes pieds. Et là, le chef de Cyberdead sort de la voiture. C'est... notre chef ? Alors, étonné, hein ? Non. Vous ne pouviez savoir ce que Yama avait volé. Le nom de l'objet aurait dû arriver au bureau des poursuites. N'empêche que ce que vous ne savez pas, c'est que la Yama que vous venez de tuer n'est qu'un hologramme. Hein ? Eh oui, à bientôt. Un hologramme. C'est comme un hologramme, mais solide. Toi, passe-moi ta moto. La course-poursuite était lancée. Moi, en moto, je roulais et les poursuivais. J'arrive à leur hauteur. Pan, 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 ma vengeance. À 9 ans, nous les avions, ma classe et moi, nous a invité un scientifique pour qu'il nous parle de son point de vue sur la science-fiction. En fait, ce savant était un savant fou. Il nous avait emprisonnés 3 jours en rejetant une substance sur nos familles pour qu'elles ne se rappellent rien. Ce savant, c'était lui. Et Yama, c'était son assistante, aussi folle que lui. C'était un humanoïde. Ma vengeance était terminée. Épilogue. 2 semaines plus tard. Je passe devant le mémorial aux 150 personnes mortes dans un attentat sur l'île de Nantes. Ce quartier devenait de plus en plus pollueur. Une secte avait détourné un avion droit sur l'île de Nantes. J'arrive à l'espace au port. Je monte dans ma navette de travail. J'appuie sur les boutons de commande automatique.
Bravo pour cette lecture magnifique et bravo pour ton texte.
Alors maintenant, on va passer à la catégorie collège, où nous avons reçu beaucoup de nouvelles, 140 à peu près, et où le niveau était très très bon, au point où, au départ, nous avions demandé 5 lauréats, et nous n'avons pas pu nous mettre d'accord à moins de 9. Donc il y aura 9 lauréats pour la catégorie collège. Je vais appeler Clément Bellon, qui est en 3e au collège Guistot. Félicitations. Hop, tu vas voir les livres. Je vais appeler Béatrice Harry ou Harid, je ne sais pas, de la 3e au collège Guistot également. Félicitations pour ta nouvelle. Je vais appeler Céline Guilbeault, également élève de la classe de 3e au collège Guistot. Bravo à toi. Je vais appeler Julia Portzenem, également en 3e, classe de 3e du collège Guistot. Cyril Benamar va la rejoindre également, toujours du collège Guistot.
Guistot bien représenté, hein, quand même.
Ah oui, très très bien. Sur les 9 lauréats, 7 viennent du collège Guistot. Maëva Ngambele, j'espère ne pas trop écorcher son nom. Alors là, on va changer de collège. On va au collège de la Petite Lande à Rezé, Arthur Eudelin, qui a beaucoup de supporters visiblement. Bravo. Et Antoine Godet, du collège Anne de Bretagne. Le collège Anne de Bretagne. Antoine. Est-ce qu'il y a quelqu'un du collège Anne de Bretagne ?
Il arrive ?
On lui remettra ultérieurement dès qu'il sera là. Alors, le gagnant, le lauréat est une lauréate, Claire-Cécile Duportail de Gisto. Bravo.
Bravo.
Alors, où est Claire-Cécile? Voilà.
Avec une très très belle nouvelle qui s'intitule Emma.
Ici. Donc, un week-end au Futuroscope pour toi et un de tes parents ou un proche. Voilà. Et puis, alors, si tu veux bien, je vais lire ta nouvelle. Elle s'intitule Emma. Moi, Aster, Astérius, roi des magiciens, je vais vous raconter un épisode de ma vie. À la clinique du Bois Enchanté, mon frère parfait, le célèbre docteur Brillant, grand chirurgien et cancérologue, opérait chaque jour des malades atteints de cancer. Les patients souffraient, subissant des chimiothérapies, des radiothérapies. Leur corps était mutilé, leur esprit épuisé et leur vie bouleversée. Devant tant de souffrances, parfait, restait calme, humble et déterminé. Il aimait son métier. Il compatissait avec ses patients. C'est mon jumeau, je voulais l'aider. En effet, je savais créer des nanorobots capables de cibler les tumeurs cancéreuses. Un jour ensoleillé du mois de janvier 2003, Emma, une fillette de 9 ans, atteinte d'une tumeur au cerveau, arriva à la clinique avec ses parents. Les traits de son visage étaient contractés par la douleur. Elle n'avait plus la force de marcher et elle se trouvait dans un état semi-comateux. Je ressentis une immense compassion pour sa maman, si soucieuse, si pâle, si frêle. Son cœur de mère débordait de souffrance. D'un regard vide, elle observait la clinique. Elle n'osait pas poser les yeux sur nous, qui allions expérimenter un traitement révolutionnaire sur son enfant. Le nuage de nanoparticules. Voilà, Emma était allongée dans un caisson étanche. Elle entendait une douce musique de harpe. Nous lui propulsions un air parfumé, saturé de nanoparticules. Abracadabra. Les minuscules robots pénétrèrent dans son corps par les poumons, furent transportés par le sang et s'agrégèrent autour de la tumeur, abracadabra, tel un rouleau compresseur. Ils s'écrasèrent, broyèrent le crabe maléfique et minuscule en minuscule poussière. Les cellules infectées furent alors dissociées puis aspirées par les nanorobots qui allaient eux-mêmes être évacués par l'expiration. C'était un procédé simple qui évitait toute douleur. Je l'avais déjà utilisé en secret sur des animaux. Papa, maman, je suis bien, je n'ai plus mal à la tête. C'est comme si mon cerveau avait retrouvé sa place. C'était la voix de la petite blondinette, si douce et si combative. Quelques jours s'écoulèrent et Emma put repartir chez ses parents. Elle était sereine, vive et en pleine possession de ses moyens intellectuels et physiques. Je remarquai que les joues de sa mère avaient pris une jolie couleur rosée, que ses yeux riaient d'espérance et que ses gestes avaient une spontanéité naturelle. Elle tint à nous remercier. Ma chérie, le docteur Brillant a été merveilleux. À présent, nous allons témoigner. Nous allons faire connaître ta guérison pour sauver les autres malades. Notre devoir est d'informer. Je me souviens du titre du journal télévisé « La petite Emma sauvée d'un cancer par un grand chirurgien et son frère, le roi des magiciens ». Les journaux du soir, ceux du matin, la radio, les médias s'emparèrent de cette prodigieuse avancée médicale. Et c'est là que les ennuis commencèrent. Les grands laboratoires, fabricants de produits chimiques élaborés et hautement toxiques pour soigner par chimiothérapie, ne l'entendirent pas de cette oreille. Comment un magicien avec sa poudre de perlimpinpin pouvait-il être crédible? Comment pouvait-on faire confiance à ce druide arriéré? Un caricaturiste me présenta en clown s'agitant autour d'un chaudron brun. Bref, l'industrie du médicament me tourna en ridicule. Avec leur versatilité habituelle, les médias se déchaînèrent. Comment, dans un monde scientifique et rationnel, pouvait-on gober une telle fable? Et tout le chômage qui allait en découler, tous les employés des laboratoires qui allaient se retrouver à la rue. Puis les écologistes montèrent au créneau. Ces nanoparticules rejetées par les poumons n'allaient-elles pas polluer l'air ambiant? N'allaient-elles pas détruire les organes vitaux chez des bien portants? Quelles seraient les conséquences sur les organismes? La chasse aux sorciers commença. Seuls, Emma et ses parents me protégèrent et s'insurgèrent. Mon frère expliqua que les nanorobots étaient programmés pour se désactiver dès qu'ils sortaient de l'organisme. Il voulut persuader nos détracteurs que les nanoparticules n'étaient pas dangereuses puisqu'elles étaient récupérées par un champ magnétique puis détruites. Une ligue de la haute autorité des médicaments m'arrêta, confisqua ma baguette magique et le rationnel triompha de la magie. La loi de l'offre et de la demande vainquit les progrès de la médecine. Aster Asterius disparut dans les profondeurs d'une géole. Emma pleura, pleura, pleura. Puis elle voulut témoigner. Elle se battit pour que d'autres enfants puissent avoir le droit de vivre. Son énergie prouvait sa guérison, mais les cœurs de pierre du monde de l'argent ignorèrent sa croisade. Elle était atterrée et démolie par tant d'obscurantisme. Elle était triste, profondément triste. Mon cœur se serrait, je devais lui dire la vérité. Je décidai de déposer dans sa boîte à lettres un DVD de la cérémonie. « Petite Emma, écoute, ils n'ont attrapé que mon enveloppe extérieure. Je me suis projetée au 23e siècle. Écoute, Emma, les nanoparticules ont triomphé. Les malades sont maintenant tous soignés et j'ai une grande nouvelle. Comme tu le vois, je suis à Stockholm avec Parfait. Nous sommes honorés du prix Nobel Magico-Médical qui vient d'être créé pour nous. Écoute notre discours, comme il commence par un joli nom. Emma ?»
Bravo.
Bon, j'espère qu'il reste quelques lycéens, puisque nous allons remettre le prix, les prix de nouvelles lycéennes. Il s'agit essentiellement d'élèves de première, L ou ES, et d'une élève de seconde. J'appelle les trois élèves qui vont recevoir des livres, Mégane Simon, Mathilde Potier et Noémie Brunelière. On a peut-être de la presse.
Où sont les lycéens ? Est-ce qu'ils ont tous disparu ? Ben, voilà.
Donc, je fais une tentative sur la quatrième lauréate qui a d'ailleurs gagné le prix, Sabrina.
Bravo, Noémie.
Merci beaucoup d'être là.
On l'applaudit.
Alors, Noémie est en seconde au lycée Alcide d'Orbigny de Bueil. Et nous vous félicitons. Est-ce que Lucie Valin est là ? Lucie a écrit une nouvelle qui s'appelle Erreur 404 et qui a remporté l'adhésion des trois jurés.
Lucie,
moi-même. Et je voulais dire qu'il y avait une personne qui aurait dû être là aujourd'hui, c'est la bibliothécaire, excusez-moi Catherine, qui est en service et qui avait beaucoup aimé Erreur 404, Sylvie Lefrèvre de la médiathèque de Nantes, qui ne peut pas. Voilà, j'ai pris sa place, mais elle était très enthousiaste.
Bravo Lucie, donc un week-end à Universcience pour toi et un de tes proches. Bravo. Donc on va lire ta nouvelle également.
J'ai oublié de vous présenter Jeanne de Batz, auteure, enseignante, mais ça ne faut pas trop le dire. Mais surtout, vous pouvez retrouver Jeanne sur la librairie d'ailleurs, parce qu'elle a publié pour la jeunesse, pour les tout petits chez Cyrose, mais pour les plus grands. Elle fera un plaisir de partager ses émotions d'écrivain avec vous. Là, c'est d'abord une lectrice, ça.
Et j'adore ça lire. Erreur 404. Dans une société où la robotisation complète a permis à l'humanité une croissance fulgurante ces dernières décennies, de grandes découvertes dans le domaine de la science de la génomique ont été faites. En effet, les scientifiques ont constaté que le génome personnel, soit la traduction du patrimoine génétique d'une espèce, mais ici traité à une échelle réduite, donc pour un individu bien distinct, permet de cibler puis d'éliminer les gènes défectueux ou porteurs d'anomalies. Ainsi, cela confère aux médecins la possibilité de soigner leurs patients de maladies héréditaires en intervenant directement sur leur ADN. Cependant, des recherches plus poussées ont aussi prouvé que grâce au génome personnel, il était parfaitement concevable de connaître les capacités intellectuelles à comprendre, apprendre, mémoriser et à calculer d'un individu. Cette dernière trouvaille, couplée à cette période de grandes découvertes scientifiques, ont fait naître une rivalité entre les États. le départ d'une course au savoir sans scrupules. Certains pays n'ont donc pas hésité, à l'encontre de toute pensée en opposition ou rébellion, à diviser en castes leur population selon les critères génétiques. Il apparaît alors, au sein de cette société, des individus considérés comme étant supérieurs, d'autres moyens ou encore inférieurs, le tout d'après leur génome personnel. Le but implicite de cette division résidait dans le fait de favoriser la reproduction entre supérieurs pour engendrer la création de véritables génies scientifiques. Ces marqueurs influencent toute une vie, en commençant dès l'enfance, où les écoliers sont dans l'obligation de passer un examen diagnostique pour déterminer leur profil génomique, ce qui fixera leur orientation définitive dans un institut d'apprentissage adapté supérieur, moyen ou encore inférieur. Uxia fera son examen diagnostique demain. Ses parents lui ont annoncé avec joie cette nouvelle ce matin. Mais concentrée sur autre chose, cette scientifique en herbe préférerait disséquer savamment les vers de terre plutôt que d'écouter sa mère. Et puis l'école, elle n'y a jamais été pour l'instant. Même si elle a eu la chance d'avoir des précepteurs pour lui enseigner les sciences et les disciplines artistiques durant ces 3 dernières années. La biologie la passionne. Et tel le savant fou, elle n'hésite pas à expérimenter des choses sur les pauvres insectes qui lui tombent sous la main, leur faisant subir toutes sortes d'expériences. De la carbonisation des antennes, en passant par l'écrasement pur et simple. Entre-temps, Uxia a pris la peine de planifier son avenir déjà très clair dans sa tête. Elle sera scientifique d'État comme ses parents. D'ailleurs, sa mère, autant que son père, sont intimement convaincus que leur fille unique est supérieure, même si rien de concret ne le prouve. L'observation seule permet de déceler le génie scientifique qui émane de la progéniture. Le lendemain, Uxia et sa mère patientent déjà devant le laboratoire à 8h. L'air est froid, le ciel sans nuages et le ciel n'a pas assez de force pour ébranler les vieux chênes de la cour. Dans la masse, il est aisé de distinguer les familles supérieures des moyennes et il suffit uniquement de se baser sur leur tenue ou leur façon de s'exprimer entre eux pour départager l'ensemble. Cependant, à ce moment, la fillette n'a pas souvenance d'avoir déjà aperçu des individus dits inférieurs. Ils sont comme un mythe urbain. Personne n'en a vraiment croisé. Et même certains disent qu'ils vivent à l'écart et d'autres nient leur existence totalement. On ne se mélange pas. Le désordre est mal vu dans cet univers assoiffé de perfection. Chacun reste bien à sa place. Inopinément, les portes s'ouvrirent. Et des agents d'accueil firent rentrer les supérieurs dans une salle chauffée. Quand Uxia, tenant la main de sa mère, franchit la porte, elle aperçut directement un fastueux buffet garni de fruits exotiques en brochette et d'une fontaine au chocolat dégoulinant. La tentation fut bien trop forte pour cette gourmande et elle s'abandonna à ses plaisirs. Quelques douceurs plus tard, la petite goinfre, qui d'ailleurs avait des moustaches de chocolat toutes fraîches, fut appelée pour l'examen. Le docteur chargé des examens l'accueillit dans son cabinet et c'est de cette manière que l'ensemble du cours de sa vie future allait se jouer pendant ses 5 minutes d'auscultation. Après les formalités administratives qui ennuyaient au plus haut point Uxia, le médecin lui annonça qu'il allait lui prélever un échantillon sanguin pour définir son génome personnel. Elle rassembla tout son courage pour ne pas laisser paraître son angoisse croissante quand elle vit le médecin s'approcher avec la seringue. Ce dernier tâta son poignet à la recherche de la zone la plus propice à la piqûre et quand il fut sûr de son coup, il enfonça doucement mais sûrement l'aiguille dans la jeune chair rosée. La jeune fille ne bronchait pas face à la douleur, mais elle était prête à prendre ses jambes à son cou d'un moment ou à un autre. C'est toujours dans ces moments-là, pensa Uxia, où la peur et la panique nous envahissent, qu'une force invisible nous astreint à l'immobilité et que cet instant sort du temps pour durer des siècles. Lorsqu'enfin il retira la seringue, une perle de sang se forma prestement sur son poignet dénudé. Cela émerveilla l'enfant qui avait déjà oublié ses angoisses. Le plus difficile était passé à présent. La patience était de mise. Toute la famille espérait maintenant les résultats qui seraient dévoilés le lendemain. C'est dans l'aéromobile qu'Uxia s'éveilla le lendemain. Le paysage défilant rapidement par la fenêtre et n'était plus qu'un amas informe de couleurs. Les yeux mi-clos, elle aperçut ses parents sur la banquette en face d'elle. Ils la regardaient fixement. Quand elle se redressa, le couple lui adressa un sourire. Sa mère engagea la conversation précipitamment, alors que sa fille émergeait péniblement de son sommeil, pour lui déclarer qu'ils allaient passer la journée à Funny Family Park. Après coup, la fillette bondit de joie et étreignit fortement ses parents. Elle allait passer les meilleures 24 heures de sa vie dans le plus célèbre parc d'attractions réservé aux supérieurs qui puissent être. C'est les portes du paradis qu'elle franchit en entrant dans le parc. Elle balaya du regard avec émerveillement toutes ces attractions extraordinaires, aussi aguichantes et fascinantes les unes que les autres. Et même ses rêves les plus farfelus n'étaient pas à la hauteur de toute cette magie, s'avoua-t-elle. Durant cette journée, Uxia put jouir de pouvoir alterner les attractions et les friandises en tout genre et toute forme. Ses parents, d'une gentillesse extrême, lui permettaient tous ses moindres caprices et personne ne vit le temps passer. Ce jour fut riche en divertissement pour toute la famille. Et hélas, ils durent abandonner ce bout de paradis pour rentrer. Demain, c'était la rentrée. Des bruits. Des cris, des aboiements, des pleurs. Uxia ouvrit les yeux. L'obscurité, où était-elle? Il faisait un froid glacial. Le sol, sûrement en béton, était gelé. Mais elle n'était pas seule. Des respirations bruyantes et affolées l'entouraient. La fillette tenta de se lever dans cet espace sans repère. Elle se heurta à divers corps mouvants au contact de ses mains. L'enfant paniqué céda et pleura. « Ce n'était qu'un mauvais rêve, se disait-elle. » Tout à coup, on agrippa fermement son bras. Une respiration haletante s'approcha lentement de son cou pour glisser vers son oreille. La fillette était pétrifiée par la peur. Le souffle se stoppa au niveau de son oreille et quelques mots se détachèrent dans un râle, peu distinct, mais l'essentiel fut compris. Fuir. Son membre fut libéré sèchement, sans ménagement. Soudainement, des cris d'hommes s'élevèrent au dehors, on approchait. Le silence domina dans la pénombre et l'amas de vie fut immédiatement sur le qui-vive. L'attente était insoutenable. Subitement, la porte s'ouvrit avec violence et laissa la lumière aveuglante du jour éblouir les yeux d'Uxia. On ne distinguait alors que la silhouette imposante d'un homme à l'entrée. Ce dernier, d'une voix rauque et ferme, ordonna à tous ceux qui seraient appelés de se ranger sur le champ près de lui, à sa gauche, précisément. Cependant, quand l'appel commença, la fillette ne comprit pas tout de suite la raison pour laquelle il n'appelait pas ces personnes par leur nom. La lueur du jour l'éclaira dans son incompréhension, car c'est quand elle vit son poignet qu'Uxia constata une sorte de marque indélébile sous sa peau. L'homme s'époumona à chaque appel, et puis il arriva le moment où il cria exactement la même chose que ce qu'elle avait tatoué sur son poignet. Elle se dirigea alors résignée vers lui. Elle n'était plus personne. Elle n'était plus Uxia. Elle était Erreur génomique 404. Quand il jugea avoir fini, il leur ordonna de le suivre à travers le camp. Dehors, il faisait froid. Elle et les autres enfants, à peine plus âgés qu'elle, tremblaient comme des feuilles. En effet, leur simple blouse blanche ne pouvait pas les réchauffer face au froid mordant de l'hiver. Tout allait trop vite. Elle ne pouvait pas réfléchir. Et dans la contrainte, obéissait aux ordres de cet homme sévère. Ils s'arrêtèrent au bout de quelques pas devant un autre bâtiment plus grand. Un badaud, promenant un berger allemand en laisse, s'approcha à son tour. Il les toisa de plus près. L'observation terminée, il s'adressa brièvement à son compère. Le premier, discussion terminée, se mit à hurler qu'il fallait que toutes les personnes se dévêtissent devant le bâtiment. Dans le calme et le silence. C'en était trop. Et les mots soufflés dans la cellule lui revenaient. Il fallait fuir. Il était trop tard pour les autres. Elle n'aurait pas le temps de les sauver. C'était elle ou personne. Après une brève hésitation, elle décida de profiter de l'agitation pour s'enfuir. Alors, elle se mit à courir le plus vite possible, sans savoir où elle se rendait. Dans sa ruée vers la liberté, elle pouvait entendre des hommes lui courant après en hurlant. Elle accéléra encore, tourna à droite, puis à gauche. Et puis elle aperçut enfin la lisière d'une forêt. l'ultime effort. Elle rassembla toutes ses forces pour sprinter encore plus vite, pour échapper à cet enfer. Dans cette course contre la mort, il n'y avait plus de raison. C'était l'instinct de survie qui allait faire la différence. Les larmes lui coulaient sur les joues comme des perles qui glissaient, rougies par le froid. Elle y était presque. La forêt la recueillait en sa lisière, terre d'asile. Et des hommes, elle n'entendait plus que les cris. Mais cependant, des aboiements se rapprochaient. À bout de force, elle s'arrêta. Alors elle se retourna vers l'enfer de cet endroit, comme pour lui adresser un dernier regard. Ah. Dans la rapidité de l'action, elle ne put esquiver. Le chien sauta à la gorge de la fillette.
Ben voilà, la remise de concours, du concours de nouvelles est terminée. Et nous vous remercions d'être venus y participer, y assister. Et puis, on donne rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles. À bientôt, merci.